Bonjour Soizic, vous voici de retour pour une nouvelle chronique des objets pour un monde. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par une devinette.
Eh oui, bonjour Marie. Savez-vous quel objet du monde a le plus de valeur tout en n'en ayant quasiment aucune? Non? Eh bien, il s'agit tout simplement du billet de banque. C'est en effet certainement l'objet le plus partagé dans le monde que l'on accepte pour une valeur qu'il n'a absolument pas. Alors, dit autrement, ça veut dire que je peux acquérir un bien qui vaut 500 euros, mais avec un simple bout de papier, le billet de 500 euros, un papier qui ne fait que représenter 500 euros, mais dont la valeur que l'on dit intrinsèque est quasiment inférieure à 10 euros. Le coût de fabrication n'est pas très important. Alors, comment c'est possible ça? Eh bien, c'est parce que nous avons tous confiance dans la valeur que l'on appelle faciale, c'est-à-dire la valeur qu'affiche le billet. Et c'est d'ailleurs pour cela que les billets, on les appelle monnaie fiduciaire, parce que fiduciaire, ça vient du latin fiducia, qui signifie confiance. Alors, aujourd'hui, une monnaie sous forme de billet semble évidente, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque l'histoire du billet, finalement, assez récente. Jusqu'au XVIIe siècle, dans le monde entier, ce sont surtout les pièces métalliques qui ont cours et qui permettent les transactions commerciales. On en a les reliquats aujourd'hui que l'on appelle la monnaie divisionnaire. Et puis, devant l'inconfort du transport du métal, eh bien, à partir du XIXe siècle, dans le monde entier et quasiment en même temps, les billets vont être utilisés. Alors, à partir des années 30, la fabrication des billets relève exclusivement des États, ce qui est là encore de façon quasi concomitante dans le monde entier, des États qui vont bien sûr s'empresser d'utiliser ce média tout trouvé pour raconter le roman national. On y retrouve l'effigie des grands hommes, comme Washington sur le billet de 1 dollar ou la reine d'Angleterre sur la livre sterling, ou bien encore les symboles des États, par exemple le billet chinois de 50 yuan qui affiche Mao sur son recto et le palais du Potala de Lhasa, capitale du Tibet, sur son verso, au cas où les Tibétains oublieraient qu'ils sont citoyens de l'Empire du Milieu. Alors, à ce propos, on peut d'ailleurs s'interroger sur les symboles de nos euros à nous, qui évoquent les styles architecturaux de l'histoire européenne, mais qui finalement ne présentent aucun ouvrage existant réellement. Une lecture critique interroge sur la représentation de ces portes et fenêtres ouvertes sur du vide finalement, et de ces ponts qui au final ne relient rien. C'est vraiment pas facile les symboles au final, Marie. Quoi qu'il en soit, qu'il soit vert, bleu, rouge, qu'il soit grand, qu'il soit petit, le billet de banque réussit le tour de force d'être un pur produit national des États et en même temps l'objet dont l'usage est certainement le plus international et le plus essentiel dans le grand magasin du monde.